Bonjour à tous. On continue dans notre livre de Josué au chapitre 6. Pour entrer dans ce repos qu'on vient de chanter, il nous faut une victoire historique. Et pour une victoire historique, il nous faut persévérer dans la foi. Et pour persévérer dans la foi, il nous faut déjà découvrir combien Dieu est grand, il est transcendant. Et c'est ce que je vous invite à voir. On se souvient au chapitre 5, juste avant donc notre épisode qu'on va lire maintenant, que Josué se trouve en la présence de l'Éternel lui-même, le chef des armées. Il s'agenouille, il l'adore parce qu'il se rend compte que c'est Dieu lui-même, la présence de Dieu dans laquelle il se trouve et qui va le mener à la victoire. Je vous invite à lire tout de suite Josué, chapitre 6, donc cet épisode de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. » Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on en rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp, ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour. Ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient seulement. Ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Je m'arrête ici dans ma lecture du chapitre 6. Vous voyez dans cette narration, ça fait état d'une ville fortifiée, d'une ville imprenable, personne ne sort ni n'entre. C'est ce qui est dit au début. Et l'Éternel prend la parole et pourtant, il ne dit pas à Josué, « Bien, alors, quelle est ta solution? Quel est ton plan, ta stratégie, Josué ?» L'Éternel, il dit, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » Alors ce matin, j'espère mettre en évidence que le peuple qui fait confiance aux promesses de l'Éternel va connaître la puissance d'un Dieu vainqueur, du seul Dieu vainqueur et triomphant, pour entrer dans ce repos, dans cet héritage promis par Dieu, qui est ici matérialisé par le pays promis. Et ce, malgré les murailles infranchissables de cette ville. Pour connaître ce Dieu qui triomphe, on va considérer d'abord sa transcendance, dans un premier temps, donc sa grandeur. Ensuite, on va voir que sa transcendance nous amène à une marche de foi, et pour ensuite voir et constater que la victoire, finalement, venait entièrement de ce Dieu vainqueur. Tout d'abord, regardons comment Dieu est transcendant dans ces premiers versets. Et d'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur le nom de Josué. Le nom de Josué, c'est donc le même que portera Jésus. Ça signifie « l'Éternel sauve ». Et quand on sait comment s'appelait Josué avant, en Nombre, chapitre 13, au verset 16, « Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué ». En fait, ça va marquer une nature complètement transcendante de la mission qu'aura Josué de montrer que la délivrance n'est pas seulement délivrance, comme Osée signifie délivrance, le prénom Osée, mais c'est l'Éternel qui délivre. Donc ça vient ajouter vraiment l'aspect transcendant à la mission que Josué nous donne ici. Le salut nous vient d'en haut, ce n'est pas une simple délivrance, une quelconque délivrance, puisque c'est l'Éternel qui sauve, ce que signifie Josué. Et l'autorité de Josué est aussi donnée d'en haut. Il n'est pas entré en campagne présidentielle, il n'a pas levé les foules, c'est pas la démocratie qui a fait son œuvre. Non, c'est Dieu qui a fait son œuvre ici. Et nous le savons, quand nous rappelons que Moïse lui-même était avant lui, et que en Josué, chapitre 3, verset 7, l'Éternel parle et dit « Aujourd'hui, je commencerai ». Je, c'est l'Éternel. Je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. L'Éternel va ensuite se manifester, et c'est encore une preuve de sa grandeur et de ce que ça vient d'en haut. Il se manifeste à Josué directement, nous l'avons vu au chapitre 5, par le chef de l'armée de l'Éternel. Il reçoit ensuite les ordres de Dieu lui-même pour prendre possession de Jéricho. Le peuple écoute Josué, non pour écouter un homme, un politique, mais pour écouter Dieu et voir Dieu à l'œuvre, la victoire du Seigneur. Et humainement parlant, une forteresse doublement barricadée comme celle de Jéricho est imprenable. Les Israélites le savent bien, leurs forces ne vont rien changer. Ils ne viennent d'ailleurs pas avec une catapulte pour faire écrouler les murailles. Et ils savent que leur victoire ne va pas dépendre de leurs forces. La foi, leur foi, elle commence en fait à considérer la grandeur de Dieu plus que la grandeur de leurs armes à eux. Et nous avons besoin de considérer cette grandeur de Dieu en nous approchant de Dieu pour marcher par la foi, puisque c'est en se rappelant que ses pensées sont au-delà des nôtres, que ses voies ne sont pas les nôtres, que nous pouvons comprendre combien... Qu'est-ce que Dieu va faire? Nous pouvons nous mettre à l'écoute de qui il est vraiment et ce qu'il veut faire vraiment et pas ce que je veux qu'il fasse. Imaginez une armée qui fait des tours de ville pendant une semaine. Et vous êtes à l'intérieur de cette ville barricadée, vous voyez ça, vous dites c'est bon, on est tranquille quoi. En plus, ils jouent de la musique là, ils font du bruit, ils n'ont pas d'armes. C'est bon, on est tranquille. Eh bien, les Israélites, pour agir comme ça, ils avaient besoin d'imaginer et de se rappeler combien Dieu est grand, combien il a agi par le passé. Est-ce que nous réalisons, nous aussi, et que nous n'arrivons pas finalement à mesurer toute l'étendue de Dieu, toute sa grandeur, toute sa transcendance. Je pense quand même, on parle de celui qui a placé les étoiles, on parle de celui qui a créé les océans, les mers, tout ce qui s'y trouve, qui a fondé les galaxies. Moi, j'arrive pas à regarder de mes yeux la galaxie, alors j'arrive encore moins à m'imaginer le créateur de la galaxie, mais c'est incroyable. Mais on doit se rappeler notre petitesse face au créateur de l'univers. D'ailleurs, j'ai relevé des mots. Les mots dans ce récit, vous les avez sûrement entendus, les répétitions de mots. Il y a beaucoup de mots qui nous parlent directement ou indirectement de Dieu. Je crois qu'on voit rien, mais bon, je vais vous les dire. Là, ici, c'est le mot « arche » qui est 10 fois. Il y a aussi le mot « sacrificateur » 10 fois, le mot « sept ». Il n'est pas un simple mot quand on connaît le plan de Dieu de se révéler. Ça amène l'idée d'un cycle complet, le septième jour de la création par exemple. Il y a 14 fois le mot trompette. Il y a encore 16 fois le mot l'éternel, donc je suis, c'est le nom de Dieu. Voilà toutes ces répétitions. Qu'est-ce que ça signifie déjà? Quelques mots rapidement. L'arche de l'alliance, elle représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et les prêtres portent les mêmes sortes de trompettes qu'ils étaient utilisées lors de l'année du jubilé, ce temps où Dieu rendait la liberté et l'héritage à son peuple. Et Jéricho va marquer justement ce temps où l'entrée du peuple dans l'héritage promis. C'est donc là encore un nouveau cycle pour le peuple, un nouveau départ qui est marqué ici dans cette conquête. Mais si tout ce récit il est saturé d'éléments concernant Dieu, concernant sa grandeur, tous ces éléments hors normes que je viens de citer par les répétitions, c'est pour nous représenter un Dieu qui dépasse notre imagination. On est un peu confus devant un récit comme ça. C'est le genre de récit où on lit, on comprend à première vue rien. On s'est dit, mais pourquoi? Mais en fait, ce récit, il fonctionne comme un dessin. Le dessin d'un enfant de 8 ans qui essaierait de représenter la beauté du Capitole à Toulouse. C'est un petit peu ça. Cet enfant, il va d'abord s'émerveiller du Capitole. C'est pour ça qu'il le dessine. Et quand on voit son dessin, ça sera vraiment la représentation du Capitole. Mais avec le prisme et l'intelligence d'un enfant de 8 ans. Ça sera peut-être assez fidèle, mais ça ne sera pas les plans d'architecture qu'on va déposer à la mairie. Ça serait dommage, ça serait dramatique pour la bâtisse. L'enfant qui dessine le Capitole dessine premièrement parce qu'il s'émerveille des qualités du Capitole. La beauté, l'aspect glorieux, la robustesse. Il ne dessine pas pour justifier que cet édifice doit être dans tous les offices de tourisme de l'Occitanie. Il veut juste s'émerveiller et cette illustration peut nous poser cette question. Est-ce que je suis encore émerveillé du plan de Dieu? Est-ce que je suis comme un enfant devant la grandeur de mon Père Céleste? Avant de tenter d'expliquer Dieu, sa grandeur, j'ai d'abord besoin, comme Josué à la fin du chapitre 5, de trembler devant sa grandeur, d'être émerveillé de qui il est. Son nom est l'Éternel, ce qui signifie « je suis ». Il est infini, je suis limité, ça devrait me rassurer aussi. Car j'aurai des moyens limités de lutter contre les problèmes, mais lui a des moyens illimités. Pour revenir à notre récit, après avoir reçu de l'Éternel les ordres, eh bien, la foi du peuple va se mettre en marche. Le peuple s'exécute et commence sa marche autour de la ville. La foi dont il est question ici, cette foi discrète, on va voir pourquoi elle est discrète, elle n'est pas si discrète que ça, hein. Mais j'aimerais accentuer sur cette foi discrète. Mais d'abord, la foi, qu'est-ce que c'est? Ça se caractérise par une marche d'obéissance à Dieu. C'est donc une confiance placée dans la puissance de Dieu. Et comme souvent dans une longue marche, certains s'arrêtent. D'autres encore ne sont pas prêts à partir. Ils ne sont pas partis. Est-ce que vous savez par où commencer dans la foi? Que diriez-vous à quelqu'un qui vous pose cette question? Peut-être où recommencer dans votre foi? Il y a quelques pistes, en fait, que j'ai pour vous. Peut-être c'est le temps de faire un point avec quelqu'un qui a déjà commencé la marche, quelqu'un qui trace le chemin. Comme autour de Jéricho, les enfants suivaient leurs parents. Est-ce le moment de reprendre en main la carte du tour de Jéricho? La Bible, en fait, pour nous aujourd'hui. C'est la Bible qui nous enseigne qui est Dieu. Ses ordonnances, sa beauté, ses qualités, ce qu'il attend de nous. Peut-être est-ce le moment d'arrêter de prendre les raccourcis en suivant le chemin balisé, je veux dire mettre de l'ordre dans les priorités de notre vie. Eh bien, dans notre récit, le peuple, effectivement, n'a pas commencé à réfléchir à comment il allait se partager le pays promis. Ça serait du désordre. Ça n'avait même aucun sens puisqu'il n'était pas en possession de ce pays encore. Il venait tout juste d'y entrer. Il n'était même pas encore devant la première ville. Il ne fallait pas réfléchir à se partager le pays, mais déjà à y entrer. Ce qui m'encourage et ce qui peut vous encourager, qu'on soit jeune marcheur, un jeune converti, ou marcheur plus expérimenté, c'est que c'est la même puissance qui agit dans les deux cas pour te faire avancer. C'est ça, il y a une fois unique, Vincent l'a rappelé tout à l'heure, il y a une fois unique, il y a un Dieu unique. Si Dieu t'a révélé que Christ est mort pour tes péchés, que tu as confessé cela de ta bouche, alors tu as reçu le Saint-Esprit et tu es sauvé. Dieu qui t'a libéré de l'esclavage du péché, qui t'a converti à sa grâce, eh bien c'est celui-là qui va t'aider à demeurer dans la foi toutes tes années durant, et dans les petits défis, mais aussi dans les grands. Et le peuple ici n'est pas devant un petit défi devant les murailles de Jéricho, donc ça peut nous encourager encore. Mais les petits défis, quels sont nos défis? Ça peut être de demeurer intègre au travail, devant les collègues, et de ne pas se joindre à ceux qui passent la journée à se moquer. Peut-être c'est lui rendre toute la gloire aussi, un jour de joie. Est-ce que je m'attribue la gloire ou je la rends? Je loue Dieu de ce qu'il est glorieux. Ou pour tenir ferme aussi dans la foi, malgré la maladie, l'épreuve de la maladie. Peut-être l'épreuve d'une annonce aussi, la maladie d'un enfant à naître, la malformation. On a besoin de cette même foi. Peu importe les circonstances autour de nous qui peuvent changer, certaines choses peuvent nous faire sentir que nous ne sommes plus en sécurité lorsqu'elles viennent à tomber. Mais où est ma foi? C'est dans des circonstances dramatiques que nous sommes le plus tentés d'abandonner Dieu, de chercher une solution alternative à Dieu. Une sécurité en dehors de lui, un réconfort en dehors de lui. Dieu éprouve notre foi dans des moments comme ça, on devrait être réjouis parce qu'il nous prend soin de nous. C'est sa manière de prendre soin et d'éprouver notre foi, notre dépendance à lui. Il faut nous rappeler aussi que le même Dieu qui nous a amenés à témoigner publiquement la première fois le jour de notre baptême va aussi nous faire triompher par la foi. Et même si ça nous semble être insurmontable pour le moment. C'est vrai, il n'y a qu'une seule foi qui sauve, il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul moteur démarré comme à continuer. Ça me fait penser, pendant mes années d'études en informatique, il y avait une matière où j'étais pas très bon, mais c'est la cryptographie. Et il y avait un examen en cryptographie qui consistait à déchiffrer un premier message pour obtenir le sujet d'examen. Il fallait utiliser la technique pour obtenir le sujet. Déjà, tu avais ça, tu avais 10. Mais en fait, en obtenant le sujet, tu n'avais pas que 10. Parce que si tu avais réussi à l'avoir, tu avais réussi à le finir, normalement. C'est la même technique pour les deux. Je trouve ça intéressant. Bon, j'ai eu 0. Mais, ça c'est la cryptographie, c'est un peu dur. Hein. Mais avec Dieu, pour Josué, la foi nécessaire à conquérir tout le pays, c'est la même qu'il fallait avoir pour la première ville, en fait. Tu déverrouilles la première, t'as tout le pays. Tu arrives à Christ, t'es converti, c'est les mêmes armes pour toute ta vie chrétienne. Il n'y a pas d'autre évangile. Et nous avons pour ça besoin de Dieu, de ce Dieu victorieux, pour toutes les délivrances, la première comme les suivantes. Et j'aime me rappeler le vrai problème pour persévérer dans la foi. marcher en nouveauté de vie, ce que la Bible appelle aussi ainsi. Il nous faut continuellement nous souvenir que le seul vrai problème, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le manque de capacité. Toutes ces choses peut-être vont nous mettre à l'épreuve, ce que je viens de citer, mais ce n'est pas ce qui freine notre foi. Dieu, il est capable de se glorifier dans toutes ces choses, en fait. Dans la maladie, dans le manque de capacité, dans notre faiblesse, Dieu se glorifie. Donc c'est pas ça le vrai problème. En fait, le vrai problème, c'est le péché. C'est ce qui se cache au fond de notre cœur. Parce qu'il n'y a rien en commun entre Dieu et le péché. C'est une séparation avec Dieu. Et c'est pour cette raison que le chrétien est appelé à se débarrasser du péché. J'aimerais vous encourager à considérer que l'œuvre de Dieu est bien réelle si vous luttez par la foi. Le triomphe de la foi est souvent un triomphe silencieux, invisible, que vous n'allez pas crier ou projeter sur l'écran de l'église. Mais pourtant, il est bien réel, le triomphe de la foi. Et vous le savez comme moi. Dans la vie du croyant, la marche par la foi, elle ressemble davantage aux marcheurs de l'arrière-garde dans notre texte. Vous savez, ceux dont on n'entend pas parler, mais ils sont au même titre que Josué ou que les autres héros de la foi, ils bénéficient de ce que Dieu va accomplir, au même titre que tous. En fait, les 6 premiers jours, quand rien ne se passe, ils sont là. Ils marchent par la foi. Ils font preuve d'une obéissance aux ordres de Dieu et leur marche, elle peut paraître fatigante. Peut-être c'est le cas pour vous, votre marche de foi, vous vous dites, il se passe rien. Pendant 6 jours, il se passe rien. Et bon, peut-être des fois, le 7e jour, j'arrive à me traîner à l'église, alors il se passe quelque chose. Mais peut-être notre foi, c'est un peu ça des fois. Mais la réussite, c'est si par la foi vous luttez, vous bénéficiez des promesses de Dieu pour votre vie. Dans notre texte, ceux qui étaient en retrait, ceux qui n'étaient pas les sacrificateurs, pas Josué ou pas Rahab, on en parle moins. Ils sont dissimulés dans tout le bruit des trompettes, mais ils bénéficient de la même foi. Ils vont aussi voir la victoire de Dieu. Ils vont aussi entrer dans le pays promis. Mais c'est vrai, la gloire de Dieu dans ce texte nous cache ces personnes de l'arrière-garde, ces marcheurs discrets. Mais nous sommes assurés qu'ils rentreront aussi dans le pays promis, dans le repos. Et pourquoi ? Et parce qu'ils ont le même Dieu vainqueur. Et je vous invite à considérer cette victoire historique du Dieu vainqueur. Parce que si la réalité de la vie chrétienne se reflète par des victoires discrètes dans votre foi, souvent au sein de nos luttes internes, à l'inverse, Dieu triomphe de manière historique, radicale, visible, en tout cas dans ce récit, clairement visible, et sa victoire ne fait aucun doute. Son règne, ses jugements, ils seront éclatants. Et le peuple a déjà pu constater, le dernier jour autour de Jéricho, que ce paradoxe est étonnant. Hein. On marche 6 jours, rien ne se passe. À un moment donné, d'un coup, c'est éclatant pour tous. Ceux qui ont marché par la foi, ils réalisent. Les ennemis, ils réalisent aussi. C'est un autre sort. Mais ils réalisent. C'est vrai, ce récit qui est saturé de Dieu, finalement, eh bien, il nous illustre que cette conquête de Jéricho n'est pas celle d'une puissance humaine. C'est pas une conquête militaire. C'est la conquête de Dieu qui agit de manière spectaculaire pour nous révéler son salut, pour nous révéler que c'est lui le Dieu qui sauve. C'est lui le Dieu qui livre, c'est lui le Dieu qui délivre. C'est Dieu qui se manifeste à Josué, c'est Dieu qui livre la ville, c'est Dieu qui donne ses ordres à Josué pour la conquête, c'est Dieu au centre de la procession. On a vu tous les éléments, arche, prêtre, sacrificateur. En fait, il y a une seule conclusion, c'est Dieu qui a combattu pour nous, qui a combattu pour le peuple. C'est lui qui a fait écrouler les murailles, et il n'y avait rien, pas même un jet de pierre. Eh bien, cette victoire que Dieu nous livre la première ville, elle fonctionne comme un gage, une assurance qu'on aura la totalité de l'héritage. Le peuple aura tout le pays. Ça devrait être une motivation pour ne pas baisser les bras, je trouve, dans la foi. Et pendant toutes les années dans le désert, les années d'errance, le peuple pouvait se poser des questions, notamment, qui nous fera entrer dans le repos ? C'était promis, mais on est toujours dans le désert. Mais devant la première ville du pays, sans lever une arme, sans catapulte, les murailles tombent. Dieu, il a littéralement agi comme auprès des générations du temps de Moïse, quand elles avaient traversé la mer Rouge, elles avaient été délivrées. L'Éternel leur avait promis qu'il combattrait pour eux, vous vous souvenez, en Exode 14, et que ce qu'ils avaient à faire, c'est de se taire. Gardez le silence, je combattrai pour vous. Ce qu'ils ont fait, ils ont vu une victoire éclatante, ils ont traversé la mer Rouge. C'est la même chose ici qui se passe. Ils ont gardé le silence ces jours, Dieu a combattu pour eux. Et parce que cette victoire vient entièrement de Dieu, eh bien, il va demander qu'on lui consacre tous ses trésors, tous les trésors de cette première ville conquise, au verset 19. C'est un rappel en fait que tout nous vient de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, tout nous vient de Dieu. On a eu une lecture de Jean-Pierre à ce sujet. C'est d'autant plus flagrant quand on connaît l'histoire de ce peuple qui a connu de nombreuses années de perdition. C'est éclatant que tout leur vient de Dieu. Ils s'étaient rebellés, n'avaient pas obéi à Dieu. Ils avaient pris des détours, comme bien souvent notre propre cœur prend des détours. Et pourtant, Dieu a maintenu sa promesse. Dieu n'a pas changé. Son alliance demeure intacte. C'est vrai, ce peuple, il témoigne tellement de nos propres vies, je trouve. Si on comprend que Dieu nous a trouvés errants, perdus, sans force, vautrés dans nos péchés, indignes de son amour. Et pourtant, c'est à ce moment précis que lorsque nous n'étions pas dignes, à cause de notre péché, que notre Père Céleste ne nous a pas refusé ce qu'il y avait de plus cher, le don de son cher Fils bien-aimé, l'objet de toute son affection, son trésor le plus précieux. Dieu n'est pas radin. Il est au contraire parfaitement généreux. Il abonde en grâce envers nous en nous offrant Jésus-Christ, celui qui était le plus cher à ses yeux. En envoyant Jésus mourir à notre place, Dieu nous offre la victoire sur le péché et sur la mort, parce qu'en Jésus, nous avons l'ultime trésor de l'Éternel, la manifestation corporelle de sa gloire. C'est vrai, par le sang précieux de Jésus qui a été versé sur cette croix, pour nos offenses, pour notre insuffisance, il nous redonne la vie avec lui. Il nous fait rentrer dans le repos. Son héritage, cette vie éternelle. Par la foi en cette victoire historique, et je rappelle que c'est une victoire historique, ce n'est pas un bon sentiment qu'on a. Certains diront, oui, c'est bien, tu crois en Dieu, donc ça fait qu'il existe. Non, non, il existe et donc je crois en lui. C'est pas un sentiment qui crée Dieu, c'est Dieu qui nous a créé, c'est Dieu qui nous a insufflé la foi. Et la foi étant une victoire historique, là encore, dont on peut témoigner, dont des témoins ont été utilisés pour nous rendre compte dans la Bible aujourd'hui encore. Par la foi, donc, en cette victoire historique, nous avons été purifiés, lavés de nos péchés, et nous ne portons plus les conséquences de nos pensées et de nos actes mauvaises. Et non seulement Dieu nous justifie, mais il nous donne un cœur nouveau, une famille nouvelle et une nouvelle perspective, une nouvelle manière de vivre, comptant sur son esprit, sur sa grâce pour avancer. Cette victoire de Jéricho était tellement connue des premiers chrétiens qui reconnaissent l'œuvre de l'Éternel. Ce qui a inspiré plus tard Paul, 2 Corinthiens 10, je vous lis ce que dit Paul au sujet de... sûrement inspiré de cette victoire en tout cas. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » En fait, on est tous captifs de quelque chose, soit de notre péché qui nous fait construire des forteresses, par peur d'affronter la réalité, la réalité du jugement qui viendra un jour. Soit on est esclave, peut-être ça choque, mais C'est positif dans ce cas-là, soit on est captif de Dieu, qui nous a affranchis du péché. Mais je trouve que l'esclavage en Dieu, c'est plutôt... Oh mince, on m'a payé des vacances dans un palais royal, quoi. Ça va, je suis obligé de rester avec la piscine, tout ça. Hein. C'est plutôt ça. Donc le mot captif ou esclave, c'est plus trop connoté négativement ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous sommes captifs de Christ par la foi, captifs de son héritage maintenant, captivés aussi par toutes les réalités les réalités célestes, les réalités de son royaume. Le problème de nos forteresses, c'est qu'elles nous donnent l'illusion d'être en sécurité, l'illusion d'être libre, mais elles finiront par s'écrouler. Alors qu'est-ce qui fait notre sécurité? Je vous pose la question, je me la pose aussi. Peut-être la stabilité dans votre vie fait votre sécurité, dans votre famille. La qualité de votre système de caméras de surveillance fait votre sécurité. Votre bonne gestion de l'argent. J'ai jamais été à découvert. Ça va. Votre capacité à anticiper le maximum de problèmes. Ça pourrait être mon cas. Hein. C'est mon cas. Toutes ces choses, elles vont être utiles, en fait. Toutes ces choses que j'ai citées sont pas mauvaises. Mais si nous les avons, nous n'avons rien de plus que les Cananéens. Rien de plus que ceux qui sont dans Jéricho et dont les murailles vont tomber. Ils comprennent bien les circonstances, les Cananéens. Oui, ils voient bien. Il y a quelque chose qui tourne autour d'eux, là. Ça va. Ils avaient le meilleur système anti-intrusion, quand même. Mieux que vos caméras, hein. Les murailles de Jéricho, ils avaient beaucoup de richesses. Pas de soucis, ils géraient bien l'argent, je pense. Hein. Mais face au jugement de Dieu, tout ça, ça va pas tenir. Alors quel est l'espoir dans tout ça? Bien, je vous invite à vous inspirer de la foi de Rahab. Au milieu de tout ce récit, toujours ce fil rouge de Rahab. Qui nous laisse l'espérance d'un salut puissant, de la victoire de Dieu. Puisque Rahab, comment s'est manifestée sa foi? Eh bien, avant même la chute visible de Jéricho, elle a cru. Elle a cru que l'Éternel était le Dieu Tout-Puissant. Elle tremblait devant Dieu. Et elle a compris qu'obéir à ce Dieu-là, ça serait salutaire. C'est le seul vrai refuge, le seul qui va tenir face au jugement qui va arriver. Sa foi lui donne non seulement une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle perspective. Donc sa foi, elle va lui donner d'entrer dans un nouveau peuple. Elle prend désormais part au même héritage qu'Israël. Et au verset 25, on le voit, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. C'est beau. On parle ici d'une adoption. C'est une notion théologique que la Bible nous dépeint du début à la fin, l'adoption. Parce que, en fait, c'est des personnes qui n'étaient pas de notre famille, qui deviennent, et pas du même peuple, pas de la même ethnie, on va fêter Pentecôte dans une semaine, hein, qui deviennent nos frères et sœurs dans la foi. Nous sommes égaux en valeur parce que c'est le Père qui nous a voulu. C'est pas moi qui ai recruté, c'est pas toi qui m'as recruté. C'est le Père qui nous a tous voulu et il l'a montré en envoyant Jésus-Christ, son Fils, nous ouvrir le chemin, nous adopter. On est co-héritiers par Christ de cet héritage, de ce repos. C'est beau l'adoption. Et tout comme l'adoption dans une famille, elle est choisie par les parents premièrement, l'adoption de Rahab aussi, elle est choisie par le Père Céleste et pas par les espions, même s'ils sont utilisés par Dieu. C'est le Dieu, c'est son Père Céleste qui l'a secouru et qui l'a voulu parmi son peuple. C'est ça, la beauté de l'Église qu'on vit chaque dimanche. On est une communauté d'adoptés. Peut-être vous le saviez pas, mais je vous le dis. Alors à la fois, Jésus est venu mettre en lumière, comme on l'a dit, l'inconsistance de nos sécurités, de nos fausses sécurités. Et en même temps, il se donne lui-même pour notre justice, pour notre réelle sécurité et pour nos nouvelles perspectives, nos perspectives en Église, vivre comme des enfants rachetés du Père Céleste. À la croix, Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché, il le juge en fait. Il choisit même d'en porter lui-même les conséquences en sa propre chair, en son propre fils. Il nous donne son meilleur trésor, et c'est sur son meilleur trésor que va tomber la condamnation, les conséquences de nos péchés. C'est beau, c'est ça la grâce de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la victoire de Christ, et cette victoire, c'est la victoire de Dieu à Jéricho, cette même victoire à la croix, c'est la victoire de Dieu qui est maintenant en notre faveur, puisque le péché est vaincu, et la mort avec. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, nous ne voulons pas te laisser en dehors de nos plans. Seigneur, on voit bien que si nous te mettons au milieu, Seigneur, nous aurons peut-être pas des circonstances que nous voulons, parce que tu décides des circonstances, mais nous aurons la victoire ultime, te connaître, Seigneur, te voir face à face, découvrir la beauté, l'immensité de notre Dieu vainqueur, notre Dieu qui sait nous rassurer dans nos luttes les plus terribles, dans nos angoisses, dans nos anxiétés, mais surtout qui a vaincu la mort et le péché, Seigneur. Personne ne peut prendre le poids de nos fautes si ce n'est toi qui t'es donné toi-même à la croix par ton Fils. Et je te prie, Seigneur, que nous apprenions à discerner dans nos vies les fausses sécurités qui nous font tenir debout devant les hommes, mais qui ne tiendront pas devant ton jugement. Seigneur, merci pour ta grâce en Jésus-Christ. C'est là notre vraie sécurité. Nous voulons encore confesser ça, nous le rappeler dans notre cœur. Nous voulons aussi être sensibles à ta voix qui nous invite à écouter, à entendre ta voix. Effectivement, tu dis, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Merci Jésus, parce que tu fais ça pour chacun de nous qui t'entend ce matin. Au nom de Jésus-Christ, amen.